www.radioscoop.com.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Demain, c'est la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer. L'occasion pour nous, dans Priorité santé, de faire le point sur la prise en charge de cette maladie. Le président français a annoncé fin juillet la mise en place d'un plan Alzheimer pour intensifier la lutte contre cette maladie qui a progressé de façon spectaculaire ces dernières années et qui est la première cause de dépendance des personnes âgées. Ce plan sera financé par les nouvelles franchises médicales. Alors, quels nouveaux moyens doivent être mis en place pour aider les malades et les familles? Où en est la recherche médicale? Nous en parlons avec le professeur Françoise Forêtre, gériatre à l'hôpital Broca à Paris et présidente du collectif Alzheimer, grande cause nationale. Professeur Forêtre, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous faites partie de la commission chargée de proposer un plan national. Est-ce que ça ne risque pas d'être un plan supplémentaire? Il y en a eu plusieurs ces dernières années.
Non, ça ne risque pas d'être un plan supplémentaire. Et ce qu'il faut dire, c'est que même si ça n'était qu'un plan supplémentaire, les deux derniers plans ont fait avancer de façon considérable la prise en charge de la maladie d'Alzheimer, ont structuré non seulement la recherche, mais aussi le diagnostic. Donc si vous voulez, même si ça s'appelait troisième plan, peu importe,
On avance.
Alors, ce qu'on espère, c'est que ça va dépasser, en particulier en moyens, l'envergure des deux plans précédents. Mais ce qui va faire finalement la valeur de ce plan, c'est de s'appuyer justement sur ce qui a été fait avant. Donc, non, je ne pense pas que ce soit un plan supplémentaire. Je pense que l'annonce même de Nicolas Sarkozy a mobilisé les esprits. Il y a quand même une prise de conscience quand on voit aujourd'hui que sur une chaîne concurrente, enfin pas concurrente de la vôtre, sur une chaîne publique, on passe pratiquement une journée sur la maladie d'Alzheimer, c'est du jamais vu.
Et vous qui vous battez depuis plusieurs années, ça fait effectivement, ça vous fait plaisir.
Ça me fait plaisir et ça fait qu'on espère que les choses vont s'améliorer.
Vous ne pouvez pas nous dévoiler ce plan, c'est encore trop tôt, mais est-ce que vous pouvez nous dire au moins sur quels axes vous travaillez?
Le Joël Ménard a tout à fait dévoilé qu'il faudrait travailler à la fois et en même temps sur la promotion de la recherche, car c'est bien évident que la clé définitive de la maladie va reposer sur des progrès en termes de traitement du mécanisme même de la maladie, mais aussi sur la prise en charge des patients, en particulier les possibilités de diagnostic. Vous savez qu'à l'heure actuelle, sur les 850 000 patients atteints de maladies d'Alzheimer ou de maladies apparentées, il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer, seule la moitié est diagnostiquée.
Alors, on va justement revenir sur cette question.
Voilà, et 17% seulement sont traités. C'est dire à quel point il faut faire des progrès sur cette continuité de la prise en charge. Et je pense que ce plan va s'atteler ardemment à améliorer ces conditions.
Alors justement, Laurence Théo est allée rencontrer Christiane, dont la mère est atteinte par la maladie d'Alzheimer. Elle nous explique dans quelles circonstances elle a découvert la maladie de sa mère.
Je ne me suis pas rendu compte très facilement, c'est une maladie très insidieuse et maman était un peu triste, il y avait un peu de désordre chez elle mais je n'y prêtais pas tellement attention. Et elle est partie en vacances dans un établissement tenu par des sœurs et au bout de quelques jours, le prêtre qui s'occupait de cet établissement m'a appelé pour me dire que ma mère se perdait dans les couloirs, qu'elle ne retrouvait pas sa chambre. Alors bien sûr j'ai été assez affolée parce que c'est quand même un des symptômes un petit peu connus. Et puis quand elle est revenue chez elle, tout est rentré un peu dans l'ordre. Et donc je me suis dit non, elle a eu un petit coup de fatigue, c'est rien. Et l'année suivante, elle est repartie à nouveau en vacances dans un autre hôtel, plus petit cette fois. Et à nouveau, donc, ce sont des tiers, donc des hôteliers qui m'ont appelé en me disant « Mais votre mère a des problèmes graves, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas un hospice, pourquoi vous l'avez envoyée chez nous ?» J'étais très choquée, je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et ils m'ont dit « Mais elle jette la nourriture par terre, elle met la nourriture dans ses poches. » Et j'ai interrogé maman, je lui ai dit « Mais maman, qu'est-ce qui se passe ?» Parce que à l'époque, elle avait une conversation tout à fait normale. Je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? On me dit que tu jettes la nourriture. » Et elle m'a dit « Mais n'importe quoi, il raconte n'importe quoi, tout va très bien, il n'y a aucun problème. » Et donc, tout ça m'a laissé très très perplexe. Et j'en ai parlé autour de moi et quelqu'un m'a dit « Mais tout ça n'est pas normal, si votre mère est dans le déni comme ça, c'est qu'il y a un problème plus profond. » Et je l'ai emmenée dans un hôpital pour faire une consultation qui s'appelle une évaluation en gérontologie. Et c'est là qu'eux ont posé le diagnostic. Mais moi, je ne m'étais pas rendu compte vraiment. Je n'avais pas repéré ces symptômes, ces changements de comportement. Quand on voit très souvent quelqu'un, on ne se rend pas forcément compte. C'est très insidieux.
Professeur Forêt, ce témoignage de Christiane est très révélateur des difficultés diagnostiques.
C'est très très révélateur et ce sont des situations qui sont extrêmement fréquentes. Et cela montre bien à quel point c'est souvent au moment où la personne sort de son milieu habituel que se révèlent des signes qui étaient, on peut pas dire qu'ils étaient cachés, simplement la personne est capable de très bien fonctionner pendant très très longtemps dans son milieu.
Avec une partie de déni de la maladie, c'est-à-dire est-ce que le patient a conscience qu'il y a des choses qui
ça
vont
dépend.
Pas
Ça dépend, il y a ça deux dépend. Types de patients. Il y a des patients qui s'en rendent compte très vite et qui demandent même des consultations, et il y a des patients qui, on ne sait pas s'ils le nient ou si c'est plus profond, si vous voulez, le fait de ne pas reconnaître la maladie, qui jusqu'au bout de l'évolution de leur maladie se disent, mais écoutez, moi je ne suis pas du tout malade. Je me rappelle un patient qui me disait, mais madame Forêt, vous êtes charmante, je suis ravie de vous voir, mais je ne sais pas pourquoi mon épouse m'amène vous voir, je vais très bien, et ça jusqu'à la fin de sa maladie. Donc il y a absolument les deux. Quelquefois c'est neurologique, c'est véritablement une incapacité de se rendre compte. Quelquefois c'est un déni parce qu'on ne peut pas supporter, on peut pas supporter cette idée. Mais beaucoup de patients s'en rendent compte, hein.
Il faut
savoir ça. Et en souffrent et demandent quelquefois des consultations. Et moi j'ai vu maintenant un certain nombre de patients qui viennent tout seuls à la consultation. C'est-à-dire qu'ils veulent même pas en parler à leur époux ou leur épouse. Ils veulent d'abord savoir ce qui se passe parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une anomalie.
Professeur Forêt, quel est l'intérêt d'un diagnostic précoce?
Alors l'intérêt est double. D'abord parce que pour la majorité des patients qui se rendent compte qu'il y a quelque chose, finalement ça calme une angoisse. Faire face à la vérité, se battre contre quelque chose qui est identifié, c'est une situation qui est bien meilleure que d'avoir une espèce d'angoisse permanente qui vous étreint. Et d'ailleurs, quand on annonce le diagnostic, très très souvent, d'abord on le fait progressivement, hein, c'est jamais brutal une annonce de diagnostic, on le fait très très prudemment, et moi très très souvent je leur dis, mais écoutez, à votre avis, qu'est-ce que vous pensez avoir comme maladie? Dans, je sais pas, moi, 9 cas sur 10, il me dit, mais bon, je pense que j'ai une maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? C'est beaucoup plus facile d'arriver au diagnostic quand le malade déjà a réfléchi à ça. Alors, la consultation d'annonce, elle ne doit jamais être une consultation d'annonce sans être une consultation d'accompagnement. Et le fait de le savoir permet d'inscrire d'emblée le patient dans un plan de soins. Un plan de soins qui peut être, qui est dans la majorité des cas le fait de rester à son domicile, mais on ajoute un certain nombre de mesures qui sont des mesures à la fois de thérapeutique pharmacologique et de thérapeutique non pharmacologique. Alors pharmacologique, vous savez qu'il y a maintenant 4 médicaments qui sont sur le marché, dont le but est d'améliorer les symptômes. Ça remplace des neurotransmetteurs qui sont défaillants. Alors ce sont des médicaments qui ne soignent pas le mécanisme de la maladie. La maladie évolue pour elle-même et c'est bien pour ça qu'on veut que la recherche aille beaucoup plus loin. Mais ça améliore les symptômes et pendant très très longtemps, et c'est ce que j'ai remarqué de plus après avoir traité des milliers de patients, ça permet de garder une sorte de surface sociale. C'est-à-dire au fur et à mesure que la maladie évolue, certes, le soin du patient repose sur l'entourage, il ne redevient pas autonome hein, quand il a perdu son autonomie, mais on peut l'emmener aux fêtes de famille, au baptême du petit dernier. Certains de mes patients ont voyagé extrêmement loin, aux Indes, partout, avec un époux qui aimait beaucoup les voyages, et c'était un couple qui voyageait avant, ils vont au théâtre, ils vont voir des expositions.
Ça permet de continuer à amener une vie le plus normale possible.
Voilà.
Le plus longtemps
et quand
possible.
Vous l'avez dans un bureau ou dans un salon, c'est une personne qui se présente comme vous et moi. Et ça, on ne voyait pas ça autrefois. Et à mon avis, c'est l'effet prise en charge pharmacologique, prise en charge de façon générale, parce que à ces thérapeutiques pharmacologiques s'associent des thérapeutiques non pharmacologiques, c'est-à-dire c'est pas des médicaments, comme par exemple la stimulation de la mémoire. On leur dit à quel point il faut qu'ils conservent le plus longtemps possible des facultés de penser, de faire des mots croisés, de bricoler, de jardiner. Tout ça, ça améliore ce qu'on appelle nous les fonctions exécutives, c'est-à-dire les possibilités de planifier une activité. Et ça, je vous assure que ça a changé totalement la prise en charge de la maladie.
Professeur Forêt, je voudrais qu'on revienne sur les difficultés de diagnostic, parce que j'avais l'impression en fait qu'on ne pouvait être sûr que ce soit une maladie d'Alzheimer finalement qu'au décès du patient si on examine le cerveau. Est-ce que c'est
alors,
vrai?
Alors oui, c'est toujours vrai, dans la mesure où il n'y a pas de marqueur véritablement spécifique de la maladie. Mais à l'heure actuelle, si vous voulez, on a quand même des moyens de diagnostic en raison de progrès qui ont été faits dans deux domaines, on pourrait dire même dans 3 domaines. Le premier domaine, c'est les examens neuropsychologiques. Et là, véritablement, lorsqu'on fait l'examen neuropsychologique, ce sont des tests pour les patients, il y a un certain nombre d'indications qui ne trompent pas dans des mains entraînées. Hein. Il faut des neuropsychologues entraînés. C'est un métier. Hein. Et c'est un métier absolument remarquable. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la neuroradiologie. Vous savez qu'on fait des scanners, des IRM. Maintenant, de mieux en mieux, on fait la mesure de certaines structures du cerveau, en particulier le lobe temporal et la petite structure qu'on appelle l'hippocampe. Et quand on voit cette atrophie progressive...
C'est ça, on suit l'évolution,
voilà,
en fait.
On suit l'évolution. Et alors, vous savez que la maladie est caractérisée par le dépôt au niveau du cerveau d'une protéine anormale qu'on appelle la protéine amyloïde. Hein, ça fait des sortes de petits amas qu'on appelle plaques amyloïdes, qu'on appelait d'ailleurs autrefois plaques séniles, au niveau du cerveau. Et bien maintenant, il y a même des mesures, mais ça reste du domaine de la recherche, de quantification de cette charge amyloïde au niveau du cerveau. Donc si vous voulez, avec l'ensemble de ces éléments, plus des éléments biologiques, on a deux marqueurs qui sont la présence de protéines amyloïdes dans le liquide céphalorachidien et la présence surtout d'une autre protéine qui est à l'intérieur même des neurones qui s'appelle la protéine tau. Et vous savez que la deuxième lésion de la maladie d'Alzheimer, c'est ce qu'on appelle la dégénérescence neurofibrillaire, qui est une lésion à l'intérieur même du neurone et qui finit par entraîner la mort neuronale. Et on voit au cours de l'évolution la protéine tau augmenter aussi. Mais vous voyez que c'est une question de quantité, c'est une question de rapport.
Et on progresse dans ce domaine du diagnostic.
Et on progresse dans ce domaine du diagnostic, mais on n'a pas encore le test qui ferait que, par exemple, dans la tuberculose, vous trouvez le BK, qui est le bacille de la tuberculose. Ça n'existe pas encore. Mais dans des mains entraînées, le diagnostic est porté avec tout à fait compétence dans 99% des cas.
Priorité santé, Claire Hédon.
Aujourd'hui, nous parlons de la maladie d'Alzheimer avec le professeur Françoise Forette. Je vous propose de retrouver Christiane qui nous parle des difficultés de communication qu'elle rencontre avec sa mère qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer.
C'est ça qui est très difficile, c'est d'arriver à communiquer, de pas s'énerver, de pas s'impatienter, de pas être blessé par certains comportements, parfois une forme d'agressivité ou d'oubli. Comme parfois j'ai l'impression de pas être en contact avec elle parce que je lui parle, mais je vois bien que son regard est vide et j'ai l'impression qu'elle m'entend pas, qu'elle m'écoute pas. Et ce qui me choque aussi, c'est que par exemple certaines personnes de la maison de retraite ou certaines personnes me disent mais votre mère a toujours été comme ça, et bien évidemment elle a pas toujours été comme ça. Elle était très sociable, très sociable, elle parlait beaucoup, et maintenant elle reste prostrée dans sa chambre devant la télé. Je pense que c'est très difficile pour elle de se mettre entre guillemets en danger en allant communiquer avec d'autres personnes. Et elle me dit mais ici ils sont tous fous. Elle rejette ça sur les autres. C'est très perturbant. Oui.
On n'a pas parlé de la déchéance physique, hein, alors qu'elle existe aussi. Comment vous le vivez ça?
Alors ça, c'est très difficile. Je dirais presque, il y a un cap où on accepte, enfin dans mon cas, parce qu'en fait la maladie évolue différemment, je pense, suivant les personnes, il y a un cap où on accepte la diminution des facultés intellectuelles. Mais dans le cas de ma mère, oui, il y a eu vraiment une déchéance physique, une très grande maigreur, un refus de s'alimenter, une incontinence totale qui fait qu'il faut lui mettre des changes. Quand elle vient chez moi, il faut la laver, il faut la changer. Et au début, malheureusement aussi, on s'habitue, mais au début, c'est très, très violent. C'est très violent. Et j'ai bataillé pour essayer de comprendre pourquoi il y avait ce phénomène. Mais c'est très cruel d'avoir cette image de sa mère qui était une belle femme et qui est advenue à cet état de maigreur et de déchéance. C'est très cruel, c'est très violent. On fait comme si c'était naturel de lui essuyer la bouche quand elle le bave, de l'aider pour aller aux toilettes, de lui acheter des protections. Et elle est dans une espèce aussi de distance, mais quelque part, je pense que c'est très dur pour elle aussi.
Professeur Françoise Forette, on l'entend avec le témoignage de Christiane, c'est très difficile pour la famille. Une partie de l'objectif du plan que vous essayez de mettre en place, c'est aussi d'aider les familles.
C'est aussi d'aider des aidants, puisqu'on sait que à peu près 60% des personnes, en tout cas dépendantes, parce qu'elle parle surtout de dépendance de sa maman, c'est lié bien évidemment à la maladie d'Alzheimer, ça peut être lié à beaucoup d'autres maladies.
Au vieillissement, hein. Aussi.
Absolument, pas au vieillissement uniquement, au vieillissement avec une maladie particulière. Sinon, il n'y a aucune raison de devenir dépendant et et on a des tas de personnes de plus de 90 ans qui ne le sont pas du tout. Mais celles qui ont une maladie, quelle qu'elle soit, peuvent avoir une dépendance. Et c'est vrai que c'est très difficile pour une fille qui a connu sa mère remarquable, belle, comme nous dit Christine, de voir progressivement cette transformation liée aux maladies et aux maladies du très 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 grand vieillissement. Alors, quand elle dit, oui, quand on l'amène à la maison, il faut s'en occuper, etc. De façon générale, ce qu'on recommande, nous, c'est que ce ne soit pas les proches qui fassent en tous les cas la toilette des patients, pour cette raison. Parce que les proches l'ont connu autrement et c'est une déchirure chez eux, alors que les soignants sont formés à ça, le font très très bien techniquement. Vous savez, changer une personne âgée, c'est plus facile, c'est plus difficile que de changer un bébé, ça s'apprend aussi. Et puis, sur le plan de la pudeur, de l'image que l'on a de sa propre mère, je pense que c'est mieux quand c'est une aide-soignante qui vient à la maison faire
Les professeurs Forêt Toussaint demandent des moyens. Par exemple, Christiane, pour sa maman, elle débourse quand même 2 800 € par mois pour un placement dans une maison médicalisée, dans une maison de retraite médicalisée. Tout le monde ne peut pas s'offrir ça. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut aider financièrement.
Alors, le coût du placement dans une institution est effectivement extrêmement cher. Le coût du maintien au domicile, quand on est très très dépendant, coûte très cher aussi. Encore plus quand la dépendance est complète. Il y a une sorte de croisement des courbes, hein. Ça dépend de l'intensité de la dépendance. Il y a un moment où c'est plus cher de rester à la maison, surtout avec les lois du travail françaises, hein. C'est quelquefois plus facile dans d'autres pays. Ce qui est difficile quelquefois, c'est d'avoir des revenus qu'on appelle intermédiaires. Parce que quand on a des revenus extrêmement faibles, à ce moment-là, on est pris en charge quand même par le système social français. Vous savez que quand on veut entrer dans une institution, on n'a pas les 2 000 € nécessaires, on demande ce qu'on appelle l'aide sociale. Alors l'aide sociale se substitue à vous et paie pour vous. Mais il y a une obligation alimentaire, c'est-à-dire que l'aide sociale se retourne vers les enfants et leur dit, bah vous monsieur, avec votre feuille d'impôt, vous gagnez tant, vous allez donc payer tant par mois. Ça peut aller jusqu'aux petits-enfants et ce sont les conseils généraux qui décident. Et c'est très cruel, hein, pour les personnes qui ont encore leur tête, de voir qu'elles s'imposent à leurs enfants et leurs petits-enfants. Et puis, il y a une hypothèque sur les biens et si vous avez une petite maison, elle est bordue à votre décès et l'aide sociale se rattrape un petit peu. Mais ce mécanisme a le mérite quand même qu'on ne laisse personne sur le bord du chemin.
Et est-ce que les institutions dans lesquelles aboutissent ces personnes sont formées finalement à prendre en charge cette
Alors,
maladie?
Alors ça dépend et ce sera véritablement probablement un des grands enjeux du plan Alzheimer, c'est-à-dire la formation, on ne le répétera jamais assez, de tous les acteurs auprès des patients atteints de maladie Alzheimer. C'est-à-dire d'abord tous les médecins. Pas seulement les médecins gériatres, pas seulement les médecins neurologues et pas seulement les médecins généralistes. Parce que quand vous êtes hospitalisé, par exemple, en cardiologie, parce que vous avez un problème de cardiologie, si le cardiologue n'est pas formé à la maladie d'Alzheimer, ça peut rendre l'hospitalisation extrêmement difficile. Mais il faut former les infirmières, les aides-soignantes, inventer de nouveaux métiers. Vous savez, on parle à l'heure actuelle de ce que les Américains appellent les case managers, c'est-à-dire les gestionnaires de cas, qui fait que quand le diagnostic est porté, que l'on a décidé un plan de soins qui est quelquefois difficile à mettre en place, eh bien, on peut se substituer à la famille, surtout quand la famille n'est pas là, pour régler l'ensemble des problèmes.
Pour organiser toute une équipe autour de la personne.
Organiser toute une équipe autour de la personne.
Professeur Forêt, 60% des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de démence apparentée vivaient en 2001, c'est des chiffres qui datent de 2001, dans les pays en développement. On a l'impression que c'est une maladie des pays riches, c'est faux.
Non, c'est une maladie qui d'abord est absolument universelle. Et il est clair que plus l'espérance moyenne de vie va augmenter dans les pays en voie de développement, et c'est ce qu'il faut espérer, plus ils vont se retrouver confrontés exactement aux mêmes problèmes que les pays développés. Et j'aime beaucoup ce qu'avait dit la directrice de l'OMS, c'est lié essentiellement au vieillissement. Et ce qu'elle disait, c'est que nous, dans les pays développés, on était riches avant de devenir vieux. Donc on arrive quand même à prendre en charge. Tandis que dans les pays en voie de développement, ils vont devenir vieux avant d'être riches, c'est-à-dire d'avoir atteint un certain degré de développement. Donc ils vont se trouver confrontés à des problèmes terrifiants.
Et à des gros problèmes de prise en charge.
Gros problèmes de prise en charge.
Professeur Françoise Forêt, merci. Au revoir à tous et à demain. Demain, nous parlerons du bégaiement. Anne-Marie Simon sera notre invitée. Elle répondra à toutes vos questions dans ce domaine. Vous pouvez d'ailleurs, dès maintenant, poser vos questions par email à priorité.santé@rfi.fr ou par téléphone au 33 1 56 40 13 16. Je répète, 33 1 56 40 13 16.